Mettez-vous là. Et répondez quand on vous parlera.
Je n'ai rien fait.
Tous les nouveaux doivent être interrogés.
Alpha 5.
Alors la biométrie, c'est quelque chose d'assez ancien, hein, parce que dès Alphonse Bertillon, qui sera directeur de l'identité judiciaire de la préfecture de police de Paris, identifie les individus à travers leur corps, c'est-à-dire les mensurations, mais il s'intéresse déjà à la couleur de l'iris, par exemple, des choses comme ça. Il s'intéressera aussi, début XXe siècle, aux empreintes digitales comme identifiant. Donc ce sont toutes les procédures qui permettent de déduire une identité à partir d'éléments corporels, voire d'éléments biologiques, comme maintenant l'ADN. Alors la grande nouveauté par rapport à Bertillon, c'est qu'on couple maintenant cette lecture du corps, ou de certains éléments du corps, avec l'informatique. Et donc on est en capacité de numériser ces informations pour les mettre dans des fichiers, dans des puces, RFID, dans tout un tas de dispositifs high-tech.
Quel est votre nom ?
Pierre Piazza, maître de conférence en sciences politiques. Je travaille sur les problématiques de l'identification et de leurs enjeux. La toute première carte d'identité pour les nationaux, c'est 1921. C'est une carte d'identité qui est instaurée par le préfet de police, Robert Lelier. C'est une carte facultative, mais très tôt, à partir de cette période, va se poser la problématique de l'atteinte aux libertés, ce qui est assez intéressant. Il y a un fort mouvement de résistance contre cette initiative du préfet de police. Par la suite, il y a un second grand temps de la carte d'identité, on va dire en France, c'est Vichy, qui généralise la carte d'identité, hein, carte d'identité obligatoire de Français, à partir d'octobre 1940. Et pour la première fois, on a un projet qui lie identification statistique et identification policière, avec la position d'un fameux numéro à 13 chiffres sur la carte d'identité, qui est l'ancêtre du numéro INSEE. Ensuite, disons que le deuxième grand temps fort historique de la carte d'identité, c'est l'informatisation de la carte d'identité. Et on a un premier projet de carte d'identité informatisée en 1980, sur lequel reviendra par la suite le Parti Socialiste en l'abandonnant, après l'élection de François Mitterrand en 1981. Et puis, c'est un projet qui va se développer par la suite sur l'initiative de Charles Pasqua. C'est la carte d'identité qu'on connaît à l'heure actuelle, qui est la carte d'identité informatisée.
Mes chers collègues, l'ordre du jour appelle maintenant la discussion en nouvelle lecture de la proposition de loi relative à la protection de l'identité. Nous laissons nos collègues s'installer.
Alors, l'actualité dans ce débat, c'est tout récemment, début mars, l'adoption par le Parlement d'une proposition de loi relative à la protection de l'identité qui instaure trois choses. Une carte d'identité nationale biométrique avec une puce dans laquelle seront insérées des données biométriques, couleur des yeux, mais aussi empreinte digitale. La constitution d'un fichier central avec des données nominatives, des données à caractère personnel, dont les empreintes digitales, et aussi la possibilité d'utiliser ces empreintes digitales à des fins d'identification judiciaire.
Je vous en prie, mes chers collègues, installez-vous.
Alors le jeu sémantique est assez intéressant parce que c'est vrai que comme en matière de vidéosurveillance, la proposition de loi sur la protection de l'identité, est-ce que ça sert à protéger l'identité des personnes ou bien est-ce que ça sert à les ficher ? Je pense que ça peut protéger dans une certaine mesure l'identité si on considère que la biométrie est beaucoup plus fiable que d'autres procédures. Mais je pense que quand on instaure un fichier de 60 millions de personnes, c'est-à-dire un fichier national de population, on est aussi dans une logique très clairement de fichage et donc de surveillance.
La parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Monsieur le ministre, si vous le voulez bien, vous avez la parole.
Nous partageons tous un même constat, à savoir que l'usurpation d'identité est quelque chose de grave, que c'est un fléau qui quantitativement est important et que par conséquent il faut nous donner les moyens de lutter contre ce fléau. Et puis, quand ensuite nous discutons, que constatons-nous ? Qu'il y a une approche.
Un ministère de l'Intérieur et des députés UMP qui ont mis en avant cet impératif de lutte contre l'usurpation d'identité pour finalement adopter cette solution miracle que serait la biométrie. C'est-à-dire qu'on évoque des chiffres très farfelus, notamment 200 000, issus d'une étude pas très sérieuse, pas très rigoureusement scientifique du CREDOC. Et quand on y regarde de près, les chiffres de fraude documentaire, ce sont ceux qui sont produits par l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Pour 2010, c'est 651 cas de fraude documentaire à la carte d'identité relevée par la police aux frontières. Donc on n'est pas dans des proportions considérables qui, si on reprend ce que disent les autorités de protection des données, justifient le fichage généralisé de la population.
Où êtes-vous né ?
À Nueva York.
Quel âge avez-vous ?
Je ne sais pas, 45 ans.
Alors, est-ce que le fichier qui accompagne cette carte est nécessaire ? Pas forcément. C'est une option. La CNIL, par exemple, recommande éventuellement l'usage de la biométrie à des fins de sécurisation de l'identité des personnes, mais elle souhaite avant tout que les données biométriques ne soient contenues que dans une carte. C'est-à-dire que la CNIL considère qu'à partir du moment où on met ses données dans un fichier, c'est-à-dire qu'on relie la carte ou la puce au fichier, l'individu n'a plus la maîtrise de ses propres données, et qu'en plus, à partir du moment où on centralise toutes ces données dans un même fichier, on a des risques de piratage et d'usage, on va dire, frauduleux, et de détournement de ces données. Cette centralisation des données, finalement, c'est ce qu'a toujours, dans un fichier unique, c'est ce qu'a toujours refusé la CNIL, en considérant que plus on centralise les données, plus il y a de risques. C'est une option possible, c'est l'option qui a été choisie, mais il y a d'autres possibilités.
On l'appelle déjà le fichier des gens honnêtes.
Fichier des gens honnêtes.
Un fichier des gens honnêtes.
Fichier des gens honnêtes.
Oui, alors c'est un sénateur, le rapporteur de ce texte au Sénat, qui a évoqué cette idée de fichier des gens honnêtes, ce qui est un peu paradoxal, parce que ça veut dire que dans la mesure où on n'est pas fiché, on serait malhonnête. Donc c'est une logique un peu étrange. Et surtout, le problème que ça pose, c'est un problème de proportionnalité, comme l'a souvent posé la CNIL. Est-ce que pour lutter contre un phénomène qui est plutôt marginal, qui est celui de la fraude documentaire, il faut ficher l'ensemble de la population ?
Qu'est-ce que vous aimez par-dessus tout ?
L'or et les femmes.
La finalité qui est avancée, c'est la lutte contre la fraude à l'identité. La CNIL considère que cette finalité-là n'est pas proportionnée au dispositif qu'on met en place, c'est-à-dire un fichage généralisé de la population. Alors ce fichier des gens honnêtes, c'est vrai qu'il pose problème, parce que si on considère que ce fichier est mis en place pour lutter contre l'usurpation d'identité, il existe déjà des instruments de police pour le faire, notamment le fichier automatisé des empreintes digitales, le fameux FAED, qui comprend à l'heure actuelle près de 4 millions de données, qui est là pour justement lutter, à partir de l'exploitation des empreintes digitales, de lutter contre le phénomène de l'usurpation d'identité. Donc si on a déjà des instruments qui fonctionnent assez bien, pourquoi est-ce qu'on généralise finalement le fichage dactyloscopique à l'ensemble de la population ?
Je vais maintenant vous posez des questions test par mesure de sécurité.
C'est vrai que cette notion de fichier des gens honnêtes pose problème, parce que, comme l'a rappelé par exemple la Cour européenne des droits de l'homme dans un arrêt récent qui s'appelle l'arrêt Marper de 2008, finalement, un État ne peut pas conserver ad vitam aeternam des données sur des gens qui n'ont pas été condamnés. Et c'est vrai qu'on se trouve ces dernières années dans cette logique, c'est-à-dire la constitution de fichiers dans lesquels on va ficher des gens qui pourtant n'ont pas été condamnés par la justice. Il y a pas mal d'exemples en France. Le plus grand fichier de police qui s'appelle le STIC, le système de traitement des infractions constatées, ce sont tout simplement des personnes qui sont fichées parce qu'elles sont considérées par la police comme potentiellement suspectes. Et c'est d'autant plus dangereux qu'on utilise ce fichier d'antécédents judiciaires à des fins de police administrative pour juger de la moralité des personnes. Pour le FNAEG, c'est un peu la même chose. Le fichier national des empreintes automatisées, des empreintes génétiques, on partait initialement sur une finalité précise qui était l'identification des auteurs d'infractions sexuelles. Et puis, très rapidement, il y a eu un élargissement du champ d'application de ce fichier pratiquement à tous les crimes et délits, mais aussi à toutes les personnes susceptibles d'avoir commis un crime ou un délit, donc pas forcément des personnes condamnées par la justice.
Vous ne dites pas la vérité.
Alors on peut se référer en la matière à la saisine du Conseil constitutionnel par de très nombreux parlementaires socialistes, communistes et écologistes, juste après le vote de la proposition de loi. Ce texte soulève tous les problèmes que pose cette proposition de loi, à savoir l'atteinte à la vie privée, l'atteinte à certaines libertés, L'atteinte à certains droits considérés comme fondamentaux, présomption d'innocence, on pourrait presque rajouter droit à l'oubli, et puis quelque chose d'intéressant, le droit de résistance à l'oppression, c'est-à-dire est-ce que la démocratie, en votant ce type de texte, ne prépare pas le pire en cas de dérive de la démocratie vers un régime autoritaire dans lequel, face à ce type de dispositif, finalement, les individus seraient démunis face à un pouvoir qui deviendrait oppressif.
Vous dissimulez certaines choses.
Et on pense aussi, dans l'expérience française, par exemple, à la période vichiste, durant laquelle, très clairement, cet instrument, la carte d'identité, a servi non seulement à stigmatiser et réprimer les Juifs, mais aussi à discriminer les Français entre eux, c'est-à-dire entre les Français dits de souche et ceux qui auraient acquis la nationalité, par exemple, par naturalisation, ce qui était mentionné sur la carte d'identité. Et puis, plus généralement, à la répression de toute l'anti-France sous Vichy.
Soyez assurés que mes décisions auront toujours en vue le bien final.